Les Sans-Culottides, un festival anarchiste du 25 au 27 décembre 2020 au Silure, 3 sentiers des Saules à Genève. Free shop d'habits, distro de denrées et radio Sans-Culottides. Infos et podcasts sur www.libradio.org. À courte réfugiés de Noël et ses funestes atours.
Nous sommes à Genève, au Silure, dans le cadre du festival Sans-Culottides de 2020. Un festival qui s'est super bien déroulé sur 3 jours, distribution de 150 repas, plus de 50 gros sacs d'habits distribués, des habits chauds en bon état distribués, et puis surtout plein de superbes échanges pendant les 3 jours du festival. Aujourd'hui, pour cette, je crois, 10e ou 12e podcast du festival, on a le plaisir d'avoir avec nous Mary Onderich du mouvement BDS, qui est active tant à Genève qu'au niveau national. BDS, c'est donc Boycott, Divest, Sanctions, un mouvement créé autour de l'occupation en Palestine et dont Mary va nous parler plus en détail.
Merci. Alors, juste une petite introduction. C'est vrai, on se focalise, on centre notre travail sur la défense des droits fondamentaux des Palestiniens, c'est-à-dire droit à l'autodétermination, droit à la liberté, l'égalité et la justice. Et ça veut dire liberté, c'est fin de l'occupation, le mur d'apartheid. Égalité, ça veut dire les droits identiques pour toutes et tous les citoyens israéliens, qu'ils soient de confession juive ou pas. Justice, c'est le droit de retour pour les Palestiniens qui ont été expulsés à partir de 1948. Donc, le mouvement BDS est conscient de l'importance d'une solidarité internationale avec d'autres luttes et la nécessité de créer les synergies pour développer un front large qui offre une alternative plus solidaire et plus juste. Nous voyons que partout dans le monde, la montée du racisme va de pair avec des inégalités croissantes, qu'ils soient économiques, sociales ou climatiques. Le capitalisme racisé touche en premier lieu les indigènes, les immigrés, les migrants, les réfugiés, les minorités, qui ont souvent des origines dans les anciennes colonies. Cet capitalisme racisé nous divise pour nous affaiblir, alors que nos conditions de vie et de travail devraient nous réunir. La compréhension du lien entre le colonialisme et le racisme était bien présent dans l'élan de solidarité des années 60 et 70, mais elle s'est estompée par la suite. Et si on pense à l'accord du siècle de Trump, ben on voit qu'il s'inscrit dans cette même logique coloniale et raciste. Non seulement il a été conçu pour renforcer l'apartheid israélien, mais il incarne aussi une tendance à l'expansion de la répression raciale mondiale. Le régime d'extrême droite d'Israël s'associe depuis longtemps à des régimes autoritaires et racistes dans le monde entier. Il leur fournit des technologies, des doctrines militaires et de la sécurité mortelle testée sur le terrain. Israël partage des tactiques de police racistes avec les États-Unis. Il fournit aussi des technologies et des équipements pour militariser les frontières, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Frontex qui surveille les mers pour empêcher à ce que les réfugiés puissent trouver l'asile en Europe est partenaire avec Elbit, une des plus grandes compagnies d'armement en Israël.
Merci Mary pour cette première introduction de ce qu'est le mouvement BDS. Maintenant, merci de nous parler un petit peu de la situation en Palestine.
Ben, elle est catastrophique. L'occupation dure depuis presque 70 ans. Il y a une expropriation massive des terres, une colonisation rampante et le mur d'apartheid a détruit l'économie palestinienne. À Gaza, qui est soumise à un blocus depuis 13 ans, le taux de chômage est de 60%. Et les experts des Nations Unies estiment que d'ici 15 ans, la vie à Gaza sera tout simplement invivable. En Cisjordanie, le taux de chômage est de 25%, mais ça touche particulièrement les jeunes et les femmes. Alors la politique israélienne est claire par rapport aux territoires occupés. C'est de s'accaparer de plus de terres possibles, en chassant les Palestiniens et les Palestiniennes de leurs terres agricoles, de leurs maisons, de leurs villages, et aussi de s'accaparer des ressources naturelles. Et là, je mets particulièrement en avant, s'accaparer de l'eau. Deuxième chose de les politiques israéliennes, c'est implanter le plus de colons possible. Actuellement, il y a plus de 650 000 colons installés dans les colonies illégales. Quand on pense que la population d'Israël, c'est 8,8 millions, on voit l'importance de cette population de colons. Le troisième but de la politique israélienne, c'est de faire des travailleurs palestiniens en main-d'œuvre bon marché et maniable. Puisqu'Israël a étranglé l'économie locale, elle peut obliger les Palestiniens d'acheter des produits israéliens plutôt que les produits palestiniens d'autrefois. Alors, comment est-ce que les gens survivent ? Aujourd'hui, environ 135 000 Palestiniens, donc c'est essentiellement des hommes, de la Cisjordanie, travaillent en Israël, en grande partie, dans la construction. Il faut encore ajouter 30 000 personnes qui sont clandestins. Ils se lèvent à l'aube pour faire la queue au checkpoint pour se rendre au travail. Même chose le soir. D'après la loi du travail israélien, ils devraient bénéficier des mêmes salaires, des mêmes prestations, les assurances maladie et d'accident. Ils devraient cotiser aussi dans les mêmes fonds de pension pour leur retraite. Mais dans les faits, 10% de leur salaire sont prélevés et versés dans un fonds géré par une agence israélienne gouvernementale. Cet argent est censé être versé en Palestine pour financer les services sociaux et culturels. Mais le gouvernement israélien la garde comme une sorte de rançon. Et donc, les travailleurs palestiniens n'auront aucun bénéfice, aucune prévoyance sociale ou remboursement. C'est du vol pur et simple, d'une somme d'à peu près 5,5 milliards de francs suisses. Et le syndicat, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça ? Eh bien, le plus grand syndicat israélien, Histadrut, est aussi un des plus grands employeurs du pays. Et il donne la préférence aux travailleurs hébreux, c'est-à-dire des travailleurs de confession juive, excluant donc 20% de la population israélienne qui n'est pas de confession juive. Donc forcément, ce syndicat n'accepte pas les travailleurs palestiniens dans les territoires occupés. Pourtant, ce même syndicat prélève 1% de leur salaire automatiquement pour les frais de fonctionnement. Les syndicats palestiniens, eux, n'ont pas le droit de travailler en Israël. Heureusement qu'il y a plusieurs associations israéliennes qui défendent des travailleurs victimes de la discrimination raciste en Israël. Donc les Palestiniens, citoyens d'Israël, les Palestiniens des territoires occupés, les immigrés et les réfugiés. Ces associations font un travail admirable, mais c'est un travail titanesque et ils disposent de très très peu de moyens. Il y a aussi 30 000 Palestiniens n'ayant pas d'autre possibilité que de travailler dans les colonies établies illégalement dans les territoires occupés. Et là, les conditions de travail sont encore pires. Aucun respect de la loi du travail, pas de salaire minimum, pas d'assurance maladie ou accident. C'est un déni des droits élémentaires de ces travailleurs qui reçoivent souvent à peu près 8 francs pour une journée de travail de 10 heures dans les champs. On calcule aussi qu'il y a plus d'un millier d'enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans l'agriculture. Évidemment, les colons refusent toute intervention négociant de la part des syndicats palestiniens.
On comprend mieux la situation et les oppressions que vivent les Palestiniens au quotidien. Et on sait qu'en 2020, il y a une couche supplémentaire de discrimination, de précarité, de violence qui est imposée par la pandémie de la Covid-19. Et du coup, comment est la vie dans les territoires palestiniens dans le contexte de la pandémie ?
Bon, les Palestiniens, ils ont bien l'habitude du confinement. Des couvre-feux, des checkpoints, des fermetures des frontières. Ça fait partie de leur vie quotidienne depuis 60 ans. Mais la pandémie a intensifié leurs difficultés et criblé encore plus l'économie. À Gaza, la situation sanitaire est terrifiante. Il y a 120 lits pour des soins intensifs, pour une population de 2 millions de personnes. Le vaccin, ben, il n'y en a pas. Le ministre de Santé israélien a dit que si jamais il restait des vaccins, une fois que toute la population israélienne soit vaccinée, peut-être il serait disponible dans les territoires occupés. Les Palestiniens n'y croient pas un mot et eux, ils comptent sur la solidarité internationale avec le vaccin cubain. Lors de la première vague, l'autorité palestinienne a eu un plan de confinement en s'associant avec des comités pour limiter le nombre de cas. Mais lors de la deuxième vague, il n'y a pas eu autant de concertation et le nombre de cas a augmenté. Au mois de septembre, il était de 11 000 cas.
Vous avez lancé une campagne internationale qui s'appelle Apartheid Free Zone, AFZ. Parle-nous un petit peu de cette campagne, de comment elle est développée et surtout, pourquoi et en quoi est-ce pertinent de parler, c'est bien sûr une question rhétorique, en quoi est-ce pertinent de parler d'apartheid quand on parle de la situation palestinienne ?
La situation des travailleurs palestiniens reflète un système où un groupe bien défini opprime un deuxième groupe identifiable d'une manière systématique et institutionnalisée dans le but justement de maintenir cette domination. C'est le propre d'une histoire coloniale et raciste et c'est la définition légale de l'apartheid qui a été votée en 1973. Ce n'est pas simplement un crime, c'est un crime contre l'humanité. Et en principe, tous les pays, même s'ils ne sont pas signataires de cette convention, devraient faire tout leur possible de mettre fin à ce système de racisme institutionnalisé et systématique. À l'époque de l'apartheid, en Afrique du Sud, des milliers et des milliers de personnes, entre autres des syndiqués, se sont mobilisées contre ce régime en disant que non, l'apartheid est inacceptable. Et ce sont ces mobilisations à travers le monde qui ont participé à obliger les gouvernements et les institutions, d'abord ailleurs, mais ensuite en Afrique du Sud même, à bannir ce régime raciste. Si l'apartheid était inacceptable en Afrique du Sud au XXe siècle, il est toujours aussi inacceptable et intolérable aujourd'hui en Israël. Puisque nos gouvernements et nos institutions restent silencieuses par rapport à l'apartheid en Israël, d'ailleurs en Suisse comme ils ont été par rapport à l'apartheid en Afrique du Sud, il nous semble que nous, activistes, citoyens, nous devons montrer notre solidarité et nous devons refuser d'être silencieux, silencieuses. Et donc, on a lancé une campagne internationale, AFZ, ça veut dire Apartheid Free Zones ou Zone Libre d'Apartheid. Nous essayons de montrer qu'il y a des personnes, des lieux, des groupes, des associations, des syndicats qui refusent de collaborer avec le régime d'apartheid. Nous voulons rendre visible et collectif ce refus, car nous nous considérons comme acteurs et actrices du changement social.
Merci, merci Mary pour toutes ces importantes explication. Une des choses que tu as dit concernant l'accaparement des eaux, l'accaparement des ressources, tous ces éléments qui rendent impossible une vie normale pour les Palestiniens, qui rendent impossible le simple droit à la souveraineté alimentaire, donc la production dans un espace pourtant fertile, tant en vie marine qu'une terre fertile sur le, du point de vue agricole, qui pourtant reste inexploitable, ceci en raison très précisément de l'occupation.
J'ai eu le plaisir d'écouter le témoignage d'un pêcheur de Gaza, M. Saad Ziada, il y a à peine quelques mois. Ce qu'il nous expliquait, c'est que le secteur de la pêche est parmi les plus importantes composantes de l'agriculture. C'est un secteur, c'est une source de revenus pour des milliers de familles dans la bande de Gaza, où environ 4000 pêcheurs travaillent dans le secteur, avec 600-700 personnes de profession annexe. Le littoral de Gaza, on le sait, s'étend sur 40 km, ce qui en théorie permet de pêcher sur environ 36 km du nord au sud et vers l'ouest, jusqu'à une distance indéterminée de 3 à 6 000 marins. Il existe à Gaza, en théorie, 1700 bateaux de pêche de taille d'utilisation différentes qui rivalisent en raison de l'étroitesse de la zone. Avant les infâmes accords d'Oslo en 1993, la pêche ne connaissait pas de limite vers l'ouest. Mais les accords d'Oslo ont limité la zone de pêche à 20 000 marins seulement. Depuis 2006, les forces d'occupation sionistes imposent un blocus terrestre et maritime sur la bande de Gaza et qui constitue une des méthodes de punition collective contre les habitants de Gaza. Ce blocus a eu des conséquences désastreuses et destructrices sur le secteur de la pêche, comme par exemple la réduction des zones de pêche, ce qui peut amener à la fermeture complète de la mer aux pêcheurs à certains moments, la privation des pêcheurs et de leurs familles de leur principale et unique source de revenus, l'augmentation du pourcentage de pauvreté extrême des pêcheurs à plus de 90% et le fait que de convertir la majorité des pêcheurs en chômeurs, ce qui a exacerbé les problèmes économiques, sociaux et psychologiques. Il y a évidemment une destruction systématique du milieu marin en raison de la pollution imposée par des chalutiers de grande taille et des bateaux de l'armée israélienne et entraîne des attaques répétées et systématiques contre les pêcheurs et leurs biens. À titre d'exemple funeste, de 2006 à 2020, les forces d'occupation marine sionistes ont tué 10 pêcheurs. Les forces d'occupation sionistes ont effectué des milliers de violations ou d'attaques durant la même période, entraînant la mort de 179 pêcheurs et l'arrestation de 643 d'entre eux, ainsi que la destruction de 171 bateaux de pêche, en partie ou en totalité, en plus du vol ou de la confiscation de 162 bateaux supplémentaires. De 2018 à 2020, les forces d'occupation ont mené plus de 600 attaques, la plupart des tirs d'obus. La plupart du temps, les pêcheurs ne sont pas autorisés à franchir la distance de 3 à 6 000 marins, ce qui reste une zone très étroite et improductive en raison de sa proximité avec les terres. Les pêcheurs qui pêchent et qui mènent leur activité professionnelle et qui permet le seul source de revenus pour leur famille sont très souvent attaqués dans ces zones. Les pêcheurs sont arrêtés avec des méthodes dégradantes, humiliantes et qui violent leur dignité. La question de l'eau est donc essentielle, non seulement en termes d'accès à la pêche, de revenus, mais affecte donc le droit à l'alimentation. Et bien sûr, la question de l'eau, c'est aussi l'utilisation de l'eau pour se laver, se nourrir, s'hydrater. Et là-dessus, je crois que Marie a d'autres informations quant à l'utilisation des aquifères dans les territoires palestiniens.
Il faut savoir que les aquifères, pour toute la région, sont en territoire palestinien. Mais le gouvernement israélien a construit des canalisations, ce qui fait que l'eau palestinienne est dirigée vers Israël. Donc ça, c'est aussi une chose qui est illégale dans le droit international. Quand on occupe un pays, on ne peut pas s'accaparer des ressources naturelles. Mais ça a un effet catastrophique, comme tu as dit, à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, parce que les Palestiniens souffrent de coupures d'eau constamment. Et il y a, je ne sais plus le pourcentage, mais il y a beaucoup de Palestiniens qui n'ont pas suffisamment d'eau, qui sont en dessous de la limite considérée comme nécessaire. Alors que de l'autre côté de quelques collines plus loin, il y a des colonies avec du gazon et puis des piscines. Quand les Palestiniens de la Cisjordanie n'ont pas assez d'eau, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, ils doivent acheter des bidons de l'eau produite par la compagnie Meskhot à des prix importants pour justement avoir de quoi subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Et quand tu as dit de jouer sur le faim, il y a eu des politiciens israéliens qui ont dit très clairement par rapport à Gaza, parce que Gaza dépend en grande partie maintenant des produits, de la nourriture qui vient d'ailleurs. Et puisque ailleurs, c'est contrôlé par le blocus, Israël fait une politique de laisser entrer le minimum juste pour subvenir aux besoins les plus minimums. Alors, justement, pour revenir à ta question sur la solidarité internationale, c'est vrai qu'elle était magnifique dans les années 60 et 70, mais c'était aussi la période de la décolonisation. Et ils ont bien compris que la Palestine, c'était un pays qui subissait une politique coloniale et une politique raciste. Et ça, on a un petit peu... Le narratif a changé. Maintenant, quand on parle des Palestiniens, c'est des terroristes qui veulent pousser tous les Israéliens dans la mer, etc. Et malheureusement, ça, c'est le discours qui revient tout le temps. Et finalement, des rares fois où on parle maintenant de le conflit, c'est quand il y a justement des bombes sur Gaza et des Gazaouis lancent des bombes fabriquées maison qui font très très peu de dégâts. Mais là, tout à coup, ça devient une nouvelle. Les Palestiniens bombardent Israël. C'est comme si la population israélienne subissait une attaque majeure. Et alors, ça permet à Israël de bombarder Gaza, bombarder les hôpitaux, bombarder les écoles, les habitations, et tout cela avec avec l'accord finalement des pays dits démocratiques, hein, dans la Suisse.
J'aimerais bien rebondir sur ce que tu disais de l'importance de la solidarité internationale. Je me demandais, est-ce qu'il y a une partie de la population israélienne qui soutient votre combat ? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur quelques minorités qui eux, ont plus d'influence parce qu'ils peuvent influencer sur les dirigeants de leur propre pays ?
J'aimerais pouvoir dire oui, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. La gauche radicale en Israël a été laminée. Il faut savoir que toutes les parties soutiennent des attaques militaires sur Gaza. Alors là, il y a un front unique. Et si vous vous rappelez, il y a quelques mois en arrière, il y avait un nombre de manifestations très importantes en Israël. Parce qu'il y a des problèmes sociaux immenses, chômage, etc. Et aussi un racisme à l'intérieur du pays, il ne faut pas oublier. Il y a des catégories. Les Ashkenazes sont tout en haut, les Sépharites et puis les Faloushas, les Juifs d'origine éthiopienne sont en bas du... Donc il y avait ces manifestations pour faire tomber le gouvernement, etc. Pas une revendication par rapport à la Palestine. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes magnifiques. Hein, il y a des groupes qui font, mais ils sont ultra minoritaires. Si un Israélien... dit publiquement qu'il soutient le mouvement BDS, c'est un acte criminel.
Partie de la problématique telle qu'on l'aperçoit, c'est aussi depuis 2001, avec les attaques, on ne voit pas les guillemets à la radio, sur les États-Unis, il y a quand même eu cette nouvelle vague islamophobe qui a été une manière de justifier la situation en Israël et qui est une manière de justifier les politiques racistes soutenues par le gouvernement des États-Unis aussi. Et cette vague islamophobe est vraiment un outil aussi de la propagande, parce que déjà ce sont des Arabes, en plus ce sont des musulmans. Troisièmement, ils utilisent quatre cailloux pour se défendre. De toute évidence, ce sont des monstres qui n'ont pas le droit à la vie. Sur une note plus positive, hier, on a fait un entretien avec Black Star, une personne noire américaine du mouvement Abolition Park, qui percevait vraiment un changement, un shift en 2020 par rapport justement à cette compréhension du lien entre capitalisme et racisme, colonialisme et racisme, entre le racisme et les oppressions de genre et les oppressions de classe comme étant des outils fondamentaux du système économique. Et son impression, en tout cas depuis les États-Unis et depuis les mouvements de libération noire dont elle fait partie, est vraiment qu'il y a un changement. Donc, une lumière d'espoir dans cette compréhension du lien inaliénable entre ces différentes oppressions.
Tout à fait. Moi, je crois que au sein du mouvement BDS, on a beaucoup mis en avant ces dernières 2-3 ans le lien entre colonialisme et racisme. Parce que la plupart des gens ne considèrent pas Israël comme un pays colonial. Après tout, c'était des victimes. Et ils sont arrivés dans une terre où il n'y avait personne, où il n'y avait pas de champs, enfin ça c'est dans le narratif, etc. Et de dire que l'Israël c'est un pays colonial, mais ça c'était étonnant. Tandis que maintenant, ça commence à avoir un écho et un colonialisme raciste, un autre écho. Et le mouvement BDS a établi déjà il y a 2-3 ans en arrière des liens avec le mouvement Black Lives Matter. Et aussi le mouvement des First Nations au Canada qui luttaient contre le pipeline qui allait traverser leur terre. Et je crois que ces liens sont extrêmement importants parce que c'est ça qui va créer une solidarité internationale. Tout le monde était horrifié par les images qu'on a vues de l'assassinat, le meurtre de personnes des Afro-Américains. Mais en Israël, en Palestine, enfin, toute proportion gardée, mais le nombre de Palestiniens qui sont tués par la police, 2 jours après l'assassinat de George Floyd, il y a eu un Palestinien autiste qui a été descendu par la police à Jérusalem-Est. Donc, je pense que plus on met en avant que c'est une bataille commune, que le colonialisme, le racisme est fondamental à un système néolibéral et qu'on a tout intérêt à joindre nos forces.
Moi, j'aurais une question. Est-ce que la culture peut être une arme du côté palestinien? Parce qu'il y a des films palestiniens qui sont absolument magnifiques et qui touchent le monde entier et qui peuvent sensibiliser à la cause palestinienne.
Oui, ça c'est une chose, mais moi je dirais sur le plan culturel, ce qui serait vraiment important, c'est le boycott culturel. Je dis ça parce qu'il y a quelques années en arrière, nous avons fait venir des militants d'Afrique du Sud qui ont dit que le boycott sportif, dans un pays où le football, c'était le roi, a eu un effet incroyable, que les Sud-Africains disaient « Nos clubs de foot ne peuvent plus jouer dans les championnats, mais ça ne va pas ». Alors, culturellement, Israël utilise la culture pour dorer son blason. Hein. On ne veut pas parler de l'occupation, on a marre de parler de l'occupation et tout ça finalement. Mais alors, regardons nos compagnies de danse, Batsheva, regardons les artistes, regardons des films, etc. Ça, c'est vraiment ce que c'est Israël. Tel Aviv, c'est un capital du gay-friendly. Nous, on est ouvertes, nous ne sommes pas des gens bornés, etc., etc. Et je crois qu'ici, d'utiliser le boycott culturel, et là, j'insiste sur le fait que ce n'est jamais un boycott contre une personne ou contre une œuvre, on ne fait pas de censure. C'est un boycott contre les productions qui sont financées par des agences officielles gouvernementales dont le but, justement, de dorer le blason. Il faut savoir que les artistes qui reçoivent des subventions doivent signer un contrat dans lequel ils se disent qu'ils sont des ambassadeurs d'Israël. Ils doivent mettre en avant la meilleure chose. Donc, je crois que de plus, on réagit sur ce front-là, ça peut avoir un impact sur la population israélienne, de dire non, ce n'est pas acceptable. Il y a une campagne extraordinairement financée par le gouvernement israélien de dire que des gens qui soutient des droits des Palestiniens sont des antisémites. Et ils ont promu ce qu'on appelle la nouvelle définition de l'antisémitisme qu'ils ont réussi à faire passer dans plusieurs pays. Et cette nouvelle définition, du point de vue juridique, est extrêmement faible. Il y a eu beaucoup d'avocats, et pas seulement des avocats pro-palestiniens, qui montrent qu'elle n'ajoute rien, elle est moins opérante que les lois contre le racisme, etc. Néanmoins, ils ont réussi, même à l'intérieur du Parti travailliste en Angleterre, dont on sait qu'ils ont subi une infiltration monumentale des forces pro-sionistes, mais le Parti socialiste en Suisse et les Verts ont demandé au Parlement à ce que cette définition soit étudiée et à accepter. Il faut savoir que la définition est en deux parties. La première partie est une définition de ce que c'est l'antisémitisme. Et la deuxième partie, c'est des exemples. Alors, par exemple, de soutenir les revendications des Palestiniens, etc., pourrait être considéré comme antisémite. De critiquer trop Israël, ça serait considéré comme antisémite. D'ailleurs, c'est le grand argument qu'ils utilisent contre le Conseil des droits de l'homme. Mais enfin, il y a peu de pays qui ont autant de violations de droits humains actuellement. Mais ça, c'est un problème réel pour nous et on voit comment c'est une manière de fermer toute discussion. Il suffit de dire que quelqu'un est antisémite et puis vous êtes grillé. Vous pouvez bien demander des rectificatifs dans des journaux, quoi que ce soit. C'est très, très difficile. Et on a vu ça dans d'autres pays. Heureusement, il y a maintenant, on a eu quelques petites victoires. L'Union européenne a dit que le fait de critiquer la politique sioniste relevait d'une opinion et qu'une opinion est garantie par la liberté d'expression. En Allemagne, où vous savez peut-être que c'est extrêmement difficile de défendre la cause palestinienne vu le rôle de l'Allemagne dans la Deuxième Guerre mondiale, dernièrement, à Munich, ils ont statué qu'on ne pouvait pas refuser une salle pour des militants palestiniens au nom de l'antisémitisme. En Suisse alémanique, il y a eu plusieurs journaux, comme par hasard à Bâle, proche de Blocher, qui ont formulé des phrases en disant BDS, supposé antisémite, etc. Alors c'est marrant, comment ils formulent, c'est jamais BDS suisse et antisémite. On dit non, BDS est supposé et c'est impossible de réagir sur le plan juridique parce que c'est pas clair qui est, il n'y a pas une personne physique, etc. Alors, nous avons maintenant des équipes de juristes qui veillent sur des articles qui sont publiés, etc. On demande le droit de répondre, etc. La plupart du temps, c'est refusé, mais on ne laisse pas passer. Mais finalement, je crois que notre force, c'est de continuer à militer, de gagner des gens, de montrer que la cause palestinienne est importante et qu'elle nous touche plus que les gens s'imaginent. Petite parenthèse, le nombre de contrats que l'armée suisse a passé avec Elbit, le plus grand constructeur de drones, ça laisse quand même à réfléchir. Confier à une compagnie israélienne qui a eu des histoires un peu douteuses, on va dire, qui voulait acheter NSO, qui est le pire des compagnies de cybersécurité, de leur confier les télécommunications de l'armée et l'ambassade, mais on se dit
Avant que tu répondes sur la question de comment vous contacter et comment vous soutenir, juste quand même prendre une minute pour dire que tant en tant que Sans Culottes qu'en tant que Libre Radio, les espaces militants de gauche en général, nous sommes antifascistes, nous sommes antiracistes, nous luttons contre toutes les formes d'oppression, dont l'antisémitisme bien sûr fait partie, et bien évidemment nous nous positionnons contre toute forme de discrimination. Maintenant nous nous positionnons d'autant plus clairement contre l'exploitation d'une réelle oppression qui, en plus, dans le cas de l'histoire juive, a été particulièrement dramatique en termes de nombre de morts, contre l'exploitation de cette histoire pour justifier l'oppression d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on continuera de dire haut et fort. Ouais. Et puis, on invite vraiment les gens à lire les textes produits, proposés ou partagés par BDS pour bien comprendre que l'objectif est la défense des droits des Palestiniens et en aucun cas une attaque ni contre les communautés juives, ni bien sûr contre le peuple israélien en tant que tel, mais bien contre les politiques d'un gouvernement oppressif et meurtrier.
Mais je crois que ça, c'est essentiel. Le mouvement BDS, depuis son origine, il y a 15 ans, a toujours dit qu'elle se positionnait contre toute forme de racisme, que ce soit l'antisémitisme, et qui est réel, et qui est un problème. Ça, c'est, on ne le nie pas. Aussi contre l'islamophobie. Alors ça, c'est plus problématique pour les gens. Et dans les 15 ans d'existence, personne, et Dieu sait si le gouvernement israélien n'a pas mis les moyens, n'a trouvé le moindre phrase antisémite dans nos publications. Donc, notre position est claire, mais ça ne va pas empêcher les personnes qui soutiennent la politique israélienne de nous taxer d'antisémites. Le cadre de notre travail, c'est de mettre en avant les demandes, les droits fondamentaux, droits qui sont tous reconnus pour qu'ils soient mise en œuvre. Mais avec le changement qui a eu lieu justement dans les dernières 2 ou 3 ans, que ce soit la montée des mouvements antiracistes, des mouvements féministes radicaux, des mouvements contre le désastre climatique, on doit travailler plus dans l'intersectionnalité. On ne peut pas simplement demander soutenir les Palestiniens, on doit montrer qu'on est tous en lien par rapport à ça.
Merci Mary. Peut-être juste clore en soulignant cette importance de l'intersectionnalité des luttes, c'est qu'aujourd'hui c'est impossible d'être dans un espace qui lutte pour le changement climatique sans réfléchir à la situation tant dans la bande de Gaza que en Cisjordanie. Il est impossible aujourd'hui d'avoir des mouvements qui luttent contre les oppressions de genre sans réfléchir aux situations dans les territoires, malgré les efforts de pinkwashing faits par l'État israélien. Et il est impossible aujourd'hui de réfléchir en tant que mouvement antiraciste, de mouvements transversaux, sans réfléchir, bien sûr, et inclure à chaque instant, dans toutes nos luttes, dans toutes nos déclarations, la situation en Palestine. On est ravis d'avoir eu avec nous aujourd'hui Mary Onderich, donc du mouvement BDS, BDS Suisse, BDS Genève, pour les contacter, pour lire leurs écrits, bds-info.ch. Merci beaucoup, Mary. Et merci aux Silures de nous avoir accueillis. Merci aux Sans-Culottides. La Lucha Sigue. Merci à tous.
Infos et podcasts sur www.libradio.org.